Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine, je ne vous demande pas combien vous avez de points à votre permis.
Tous mes points comme 8 Français sur 10, figurez-vous. Dans le journal, on va parler du cauchemar d'un retraité. C'est la troisième fois en 3 ans que sa maison est squattée. On vous emmènera aussi en Autriche, où l'on songe à reconfiner les non-vaccinés. Et puis je vous présenterai le plus jeune joueur jamais recruté par un club de foot, 5 ans seulement.
Oui, effectivement, ça fait jeune. D'après le journal, 2 débats, faut-il supprimer le permis à points? C'est ce qu'a proposé hier sur RTL Éric Zemmour. Ou peut-être déjà le modifier, peut-être qu'on pourrait passer de 18 à 12 points, ce qui donnerait une marge de sécurité plus importante pour l'automobiliste. Et à 12h50, le prix des jouets qui explose à 2 mois pile de Noël, plus 5 euros en moyenne.
De 12 à 18, non? C'est ça que vous vouliez
de
dire?
De 12 à 18, j'ai dit quoi?
18 à 12.
Je me disais...
De 12, on le porterait à 18 points, on aurait plus de sécurité pour l'automobiliste.
Bon, en tout cas, c'est la question du jour sur RTL.fr. Faut-il supprimer le permis à points? Vous dites oui à 55%, non à 37%. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Amandine.
Ça, c'est nettement moins bien qu'hier. Hein.
C'est le week-end, hein. C'était bien, on en a profité. Oui. Et là, pendant la semaine, la pluie revient. C'est un peu normal en automne également. C'est une petite perturbation qui traverse actuellement la France, que l'on retrouvera cet après-midi de l'Aquitaine à la Lorraine. Elle est toute petite, hein, 100 km d'épaisseur. Après son passage, on trouvera quelques éclaircies dans le nord-ouest, mais avec encore des averses. Et puis, à l'inverse, à l'avant de cette perturbation, de l'Alsace à la Méditerranée, on pourra encore profiter d'un ciel lumineux. Même chose sur les Pyrénées. Les températures, un peu comme hier, à peu près de saison, 14 à 17 degrés dans la moitié nord, 17 à 23 dans le sud.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc cette nouvelle affaire de maison squattée. Cette fois, la victime c'est Georges, un retraité toulousain de 84 ans. Patrick Tégéraud, c'est la 3e fois que sa maison est occupée.
Oui, c'est toujours la même histoire aux abords de l'hiver. Marie-Ange est la fille de Georges.
Donc, première année, nous avons eu des roumains. On a réussi à les sortir au bout de 48 heures en faisant le forcing avec la police. Il faut vous dire ce qui est. Deuxième année, ça a été des Afghans, pareil, on a fait le forcing. Troisième année, nous avons apparemment, d'après la police, des ultra-gauches. Et là, c'est un peu plus compliqué.
Les nouveaux habitants connaissent bien la procédure car ils ont posé un gros cadenas sur le portail et surtout, ils ont placardé une feuille imprimée annonçant qu'ils ne partiraient qu'après une décision de justice.
Donc, ils ont mis un petit panneau en disant qu'ils étaient chez eux, que c'était les propriétaires. En étant très terre-à-terre, je n'arrive pas à comprendre une situation comme ça, qu'on puisse rentrer chez les gens comme ça, tout casser, qu'on leur dise rien, quoi. Dans leur plein droit, et ils sont apparemment protégés par des associations, quoi.
Pour Marie-Ange, c'est d'abord une violation de domicile.
Dans mon père, 84 ans, il est désespéré parce qu'en plus, c'est une maison qu'on est en plus obligé de vendre, vu le quartier et tout. Non, et maintenant qu'on avait le bout du tunnel, eh bien, nous avons des squatteurs et on doit se battre pour les virer en parlant poliment.
Il y a urgence car la maison et son jardin ont été vendus à un promoteur qui a obtenu un permis de construire. Si les squatteurs restent, eh bien la vente pourrait être remise en cause.
Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Dans l'actualité également, ce déplacement d'Emmanuel Macron dans la Loire. Première étape ce midi à Saint-Étienne pour évoquer son plan France 2030. William Galibert, vous êtes sur place pour RTL. Le chef de l'État veut coûte que coûte continuer à occuper le terrain.
Oui, Amandine, pour contrôler la course, Emmanuel Macron pense que le plus simple, c'est encore de rouler en tête. Alors le chef de l'État, vous allez le voir sur le terrain et vous allez le voir de plus en plus souvent. Il vient parler investissement d'avenir ici à Saint-Étienne, dans une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Cet après-midi, la réhabilitation des friches industrielles sera au programme à Montbrison, c'est à une 30 kilomètres d'ici. Et puis le pouvoir d'achat, et puis le climat, et puis l'Europe, il va se démultiplier dans les prochaines semaines. Il veut imposer son agenda, ne pas courir après ses concurrents, mais ça ne marche pas toujours. Tenez, un seul exemple. Demain, le chef de l'État sera dans les Yvelines pour l'inauguration d'un musée consacré à l'affaire Dreyfus. Et il y sera au moment où Éric Zemmour est accusé de révisionnisme sur le sujet par de nombreux historiens. On a un tout petit peu de mal à croire que c'est une simple coïncidence.
William Galibert à Saint-Étienne pour RTL.
Et parmi les sujets au cœur de cette campagne, la question de l'énergie.
RTE, le réseau de transport de l'électricité en France, a présenté tout à l'heure 6 scénarios possibles pour 2050. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Une certitude d'abord, on ne va pas pouvoir faire sans les éoliennes.
Non, dans les 6 scénarios, il y a forcément plus de panneaux solaires et plus d'éoliennes, car l'électricité va devenir en France notre principale source d'énergie. Dans le monde de 2050, 50, vous ne mettrez plus d'essence dans votre voiture, vous ne chaufferez plus votre maison au fioul, tout sera électrique. C'est une obligation pour respecter nos engagements sur le climat. Donc, la consommation d'électricité va fortement augmenter et pour faire face, il sera techniquement impossible de tout miser sur le nucléaire, de construire suffisamment de réacteurs. Nos vieilles centrales vont fermer, donc il faudra des énergies vertes.
Il y a même un scénario qui prévoit 100% d'énergie renouvelable.
Oui, le scénario est jugé possible par RTE, mais ce serait le plus cher. Le vent, le soleil, ce sont des énergies intermittentes qu'il faut stocker. Ne faire que ça coûterait 10 milliards d'euros de plus par an que si on construit des réacteurs. Donc, vous voyez, il faut un peu de tout. Alors, au maximum, la France devrait pouvoir faire 14 nouveaux réacteurs, estime RTE. Dans le meilleur des cas, pour le nucléaire, il représentera 50% de notre électricité en 2050 et 50% pour les énergies vertes.
Merci beaucoup, Virginie. Une transition énergétique déjà en marche dans le secteur auto, ça ne se fera sans doute pas sans casse, prévient Luc Châtel, qui préside désormais la PFA, la plateforme automobile. Selon lui, ce sont 65 000 à 100 000 emplois qui pourraient être détruits.
Il y a deux ans, avant la crise Covid, nous estimions à moins 15 000 emplois l'impact de la transition vers l'électrique. Nous sommes aujourd'hui à 65 000. Et je ne vous cache pas qu'il y a un scénario du pire, hein, qui est celui où on a du mal à encaisser cette transition et où on a un impact qui est supérieur à 100 000 emplois à horizon 2030. Il faut 7 mois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur diesel.
7 fois moins d'ouvriers pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur diesel. C'était Luc Châtel ce matin, invité d'Yves Calvi sur RTL. Les voitures de moins en moins bienvenues à Londres. Depuis ce matin, la ville a étendu la zone de péage pour les véhicules les plus polluants. Pour rouler dans le centre, Marie Billon, il faut désormais débourser jusqu'à 30 euros.
Aviv est triste. Sa mini verte, il va devoir la laisser au garage.
C'est ma mini de 1996, une icône britannique. Mais maintenant, je ne peux pas l'utiliser sans débourser.
Aviv se sert de sa voiture pour aller faire ses courses ou bien se promener avec sa famille.
Comme beaucoup de Londoniens, je me sens limité dans mes mouvements. Aller au travail en voiture, aller faire ses courses, profiter de la vie dans la capitale devient un privilège pour les riches.
Pour aller dans le centre de Londres, Aviv doit désormais s'acquitter du péage urbain et de cette nouvelle taxe, donc plus de 30 euros. Pour n'en payer que la moitié, il pense à s'acheter une nouvelle auto moins polluante, mais ça lui crève le cœur de vendre sa mini. Son voisin Ian, lui, a pu s'acheter une seconde voiture.
On m'a forcé la main, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas payer 14 euros dès que j'allumais le moteur. C'est beaucoup pour respecter une réglementation créée pour de fausses raisons.
La mairie espère que cette zone étendue fera baisser la pollution. Ian et Aviv, eux, sont persuadés qu'elle veut surtout renflouer ses caisses grandement vidées par la pandémie.
Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres.
À l'est de l'Europe, ce qui inquiète, c'est la recrudescence des cas de Covid.
La Bulgarie, 24% de vaccinés seulement, commence à envoyer des malades à l'étranger. La Roumanie a reçu du matériel de France. Quant à l'Autriche, eh bien, elle songe à reconfiner les non-vaccinés. Bénédicte Tassard, ça représente 30% de sa population.
Ah oui, Vienne scrute le taux d'occupation des unités de soins intensifs par des malades du Covid et vient de dévoiler un plan en 5 étapes. Aujourd'hui, 11% des lits sont occupés par des patients Covid. À 20%, le test antigénique va perdre sa validité. Dans toute l'Autriche, il faudra absolument un test PCR. Encore plus de lits occupés. Seuls les Autrichiens vaccinés ou guéris pourront entrer dans les bars, les hôtels, se rendre à la piscine, au concert ou visiter un proche à l'hôpital. Et si ce taux atteint les 30%, eh bien les non-vaccinés seront invités à rester chez eux, confinés, sauf pour aller travailler ou acheter les biens essentiels. Donc, plus possible d'aller dîner chez des amis ou d'aller se promener pour les non-vaccinés, prévient le chancelier autrichien Alexander Schallenberg.
Je ferai tout mon possible pour que le système de santé ne soit pas surchargé parce que nous avons trop de procrastinateurs et trop de personnes qui ne peuvent toujours pas se résoudre à la vaccination.
Et le chancelier de rajouter une chose est claire, il n'y aura pas de confinement pour les personnes vaccinées. Les modalités sont maintenant dans les mains des experts.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, et puis toujours à l'étranger, situation confuse au Soudan. Le Premier ministre et plusieurs membres du du gouvernement ont été arrêtés par des forces armées. Une tentative de coup d'État condamnée notamment par l'Allemagne qui appelle à la reprise du dialogue. En tennis, l'équipe de France disputera la phase finale de la Coupe Davis sans Gaël Monfils, le numéro 1 français. Le capitaine Sébastien Grosjean a préféré miser sur la jeunesse avec Hugo Humbert et Arthur Rinderknecht qui joueront aux côtés de Richard Gasquet, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Début de la compétition le 25 novembre, 10 jours hein, désormais, c'est la nouvelle formule, pour départager 18 nations. Et puis lui est donc le plus jeune joueur jamais recruté par un club de foot. Zayan, 5 ans, va intégrer Arsenal. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
On le surnomme déjà le petit Messi.
Dans un reportage diffusé par la BBC, Zayan Ali Salman se présente le plus naturellement du monde, un maillot d'Arsenal sur les épaules. L'un des recruteurs des Gunners explique qu'il n'avait pas l'intention de l'intégrer à son école de foot, mais que les prédispositions du bambin l'avaient finalement convaincu. Zayan colle au ballon, tente et réussit dribble et passement de jambes, toujours bien équilibré. Un baby Messi, ou plutôt un baby Maradona avec de belles boucles brunes. Ses parents lui ont créé un compte Instagram qui rassemble déjà 19 500 fans. La semaine dernière, il a fêté ses 5 ans et a reçu en cadeau une carte joueur FIFA à son effigie sur laquelle il porte un maillot du PSG assorti à son pyjama. Personne ne semble s'inquiéter de son autre apprentissage, celui de la vraie vie, car Zayan fréquente encore la crèche en dehors des terrains plutôt que la petite école. S'il sera peut-être un jour au centre d'un transfert retentissant, plusieurs éducateurs trouvent cette mise en scène inquiétante. Sur une vingtaine de préados recrutés dans les centres de formation, deux ou trois seulement deviennent footballeurs professionnels.
Merci beaucoup Jean-Michel. Jean-Michel Rascol. Oui, il est scolarisé à Londres, hein, c'est ça Jean-Michel?
Exactement.
Voilà. Je ne sais pas si ce service qu'Arsenal rend à ce petit garçon, mais
c'est
à 5 ans, il est encore en crèche.
Non, mais il est à Londres scolarisé, donc le système n'est pas tout à fait le même. C'est pour
on
ça, ça ne s'appelle pas maternelle.
On reste plus longtemps à la crèche et on apprend...
C'est jardin d'enfants.
Voilà, c'est un jardin d'enfants. Pour
non mais c'est vrai, c'est un autre
mais
système.
Attendez, mais je vous crois, mais c'est effrayant votre histoire. C'est effrayant, mais en même temps c'est le monde d'aujourd'hui, sans doute. Faut-il supprimer le permis à point? Tiens, combien vous êtes permis à point, monsieur Rascol?
Non, combien j'ai de points sur mon permis plutôt.
Combien de points vous avez sur votre
permis? 10.
Ah, c'est bien, vous êtes un bon conducteur. Louis?
12.
J'ai 12.
C'est grâce au Covid.
Bénédicte?
Je les ai tous.
12. Vous avez dit?
12.
Moi, j'en ai 8. J'en ai récupéré 4 d'un coup. Ils m'ont été redonnés au 1er juillet. Mais pas par un stage. Donc 12h41. Non, au bout de 10 ans, tu récupères, paraît-il, tes points. 12h42, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Moi, je pense qu'il faudrait supprimer le permis à point. Ça ne sert à rien. C'est infantilisant au possible. Les Français ne peuvent pas travailler pendant deux jours. Et ça coûte entre 250 et 300 euros. Donc les points, maintenant, c'est un racket. Il y a des pays comme la Suisse, la Suède, la Finlande qui n'ont pas de permis à point. Ils ont moins d'accidents que nous. Ils ont moins de morts sur la route.
Et c'était hier sur RTL. Éric Zemmour expliquait vouloir supprimer le permis à point. Alors, bonne idée ou pas, c'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Jean-Yves Lamant.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président de la Ligue contre la violence routière. J'imagine que cette proposition, supprimer le permis à point, ça vous a fait bondir?
Bah bien évidemment, parce que cette proposition, d'abord, c'est une affirmation qui n'est absolument pas justifiée, sauf à confondre cause et coïncidence quand on prend un témoin des exemples de pays pour dire voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas de permis à point que... C'est beaucoup plus complexe. La sécurité routière est un vrai sujet avec des enjeux qui sont des vies et ça se traite avec un peu de recul et moins de désinvolture.
Si on prend l'exemple de la Suède, pour aller dans votre sens, certes il n'y a pas de permis à point, deux fois moins de tués qu'en France, mais les contrôles et les sanctions sont beaucoup plus strictes. Ce matin, Christophe Bourreau nous expliquait que par exemple une amende était proportionnelle au revenu, ça faisait l'amende à 2000 euros en moyenne.
C'est exact, c'est le même cas aussi pour la Finlande, pour tous les pays nordiques. Et puis il y a une culture du risque, une culture du respect de l'autre qui est pas du tout la même qu'en France. Donc on ne peut pas du tout assimiler ça à la suppression du permis de conduire ou à l'absence de permis de conduire. Permis à point, pardon.
Monsieur Lamant, on pourrait peut-être imaginer une réforme. Moi j'entends beaucoup de gens qui roulent beaucoup, ce qui n'est pas notre cas à nous ici, qui font 40, 50, 60 000 par an et qui disent on ne peut pas garder nos 12 points parce qu'on les perd un par un. Et là, ce n'est pas des chauffards ces gens-là, c'est des gens qui sont à 70 au lieu de 50, etc. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système avec des peines très lourdes pour quelqu'un qui est à 180 à l'heure sur l'autoroute, quelqu'un qui a pris le volant avec de l'alcool, tout cela, même suspension de permis de conduire, pourquoi pas même au-delà de 3 ans. Mais en revanche, pour ceux qui perdent point par point, et qui font que, à l'arrivée, ils sont obligés, parfois, on leur supprime leur permis. Peut-être peut-on imaginer une réforme.
On pourrait.
C'est pas des chauffards, je le répète. C'est pas des chauffards, les gens dont je parle.
En raisonnant rapidement, on pourrait. Simplement, le problème, c'est que le permis à points, il est précisément fait pour faire en sorte que vous perdiez vos points petit à petit, que ce soit des sanctions graduelles, et qu'à un moment donné, vous preniez conscience. Lorsque vous perdez un point à la fois et que votre permis est supprimé, il y a vraiment un problème. Il faut que,
Peut aller très vite, vous le savez bien, monsieur Lamont.
Ça peut aller très vite, simplement, à un moment donné, il faut se dire... Si jamais mes points...
Vous savez combien vous perdez de points dans Paris si un piéton est engagé sur un passage piéton ? Vous savez combien vous perdez de points ?
6.
Donc, c'est-à-dire qu'il a mis le pied sur une bande blanche.
Oui.
Vous tombez sur un policier un peu scrupuleux, vous perdez 6 points d'un coup.
Sauf que le piéton, il faut le laisser passer. C'est le code de la route.
Mais s'il a mis un pied, je vous dis, c'est pour ça que si vous êtes scrupuleux, si vous tombez sur un policier un peu scrupuleux, évidemment, s'il est au milieu du passage piéton, c'est encore autre chose. Mais il a mis un pied sur la bande blanche, vous perdez 6 points.
C'est pas le problème du policier scrupuleux. Vous perdez 6 points, mais là, si vous êtes averti, la prochaine fois que vous verrez un piéton poser un pied sur un passage piéton, vous vous arrêterez.
Mais parfois, vous ne le voyez pas, monsieur Lamont. Parfois, vous ne le voyez pas dans Paris. Hein. Moi, je vais vous faire conduire dans Paris avec les trottinettes, les vélos, les piétons aujourd'hui. C'est un gymkhana.
Je suis entièrement d'accord. Mais là, après, chacun doit assumer ses responsabilités aussi. Hein. Le problème de ce permis à points, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les gens aient conscience du fait que la moindre petite infraction, c'est pas un problème de grosse infraction.
Si on allait à 18 points, par exemple.
Vous pouvez mourir parce que vous êtes percuté avec quelqu'un.
J'entends bien, mais si on allait à 18 points, par exemple, si on faisait, au lieu d'en avoir 12, si on en avait 18, est-ce que ça changerait les choses selon vous ?
Pour moi, pas fondamentalement, parce que c'est un problème de pédagogie. Ce qu'il faut, c'est que... On a une suggestion à faire, c'est qu'il faudrait que tout le monde puisse visualiser le film de Colline Serrault qui s'appelle « Tout est permis ». Elle a fait 172 rushs pendant les stages de récupération de points. Et le film est extraordinaire. Il montre à quel point la mauvaise foi des gens est là et qu'en fait, le permis à points prend toute sa valeur à travers ces stages-là.
On dit qu'ils servent à rien, ces stages, monsieur Lamont.
Je pense que c'est pas vrai. Il faut les adapter pour plus de pédagogie. Il est vrai que la succession, la multiplication des images chocs n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut essayer de faire prendre conscience aux gens que ce ne sont pas des chauffards, effectivement, parce qu'on est tous soumis à des biais cognitifs qui font que on a une surconfiance par rapport à soi. On a des comportements qui nous amènent à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et pour les autres. Il faut simplement juste voir qu'il y a des méthodes pour corriger ça et qu'individuellement, on ne peut pas le faire. Ça s'appelle la psychologie cognitive. Et cette dimension-là, qui est aujourd'hui un peu balayée d'un revers de main par le rapport de la Cour des comptes, nous on est contre, et je pense qu'il faut aller dans le sens d'essayer de faire comprendre aux gens que leur cerveau fonctionne d'une certaine manière, que ce ne sont pas des chauffards nés, mais qu'il y a heureusement des choses auxquelles on subit, et qui doivent être corrigées collectivement, et la règle aide à corriger ça.
8 Français sur 10 ont encore leurs 12 points. Merci beaucoup Jean-Yves Lamont.
Exactement.
Je suis d'accord avec vous, mais ce qu'il faudrait, c'est des statistiques et mettre un rapport entre ceux qui font beaucoup de kilomètres et ceux qui ont évidemment un nombre de points. Parce que plus on roule, plus on risque de les perdre. Il est 12h50 et on va parler des jouets à l'instant. Les jouets explosent à 2 mois pile de Noël. Vous n'avez pas écrit votre lettre encore?
Pas encore, mais c'est dans 2 mois pile.
Oui, le prix des jouets explose. Ludovic Van de Kerckhoff a raison, c'est pas les jouets qui explosent, bien sûr. C'est le prix des jouets. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Elle fait du bien cette musique.
Je crois que c'est, alors là, il est on est quel jour? 24
25 octobre.
C'est la première fois sur l'antenne d'RTL de la saison où on entend une musique de Noël.
Alors sachez que je suis au taquet sur RTL, sur RTL, et sur Noël.
Oui,
j'adore compter le nombre de dodos, tout ça.
Alors,
donc je vais vous le faire régulièrement.
Il y a les Noëlophiles et les Noëlophores.
Voilà,
si vous êtes Noëlophile, on va bien s'entendre parce que tous les jours on va parler de Noël.
Alors ça tombe
bien. Moi je suis comme vous.
Donc dans pile 2 mois, et le problème c'est que ce Noël risque de coûter plus cher au Père Noël, puisque les prix des jouets
grimpe en flèche. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Et c'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL, scrutez les catalogues. Hein. Vous avez passé en revue pas moins de 1200 pages. Bilan, il faut en moyenne compter 5 euros de plus pour chaque jouet. C'est à cause de la crise sanitaire, ça encore ?
Oui, on en revient encore et toujours au contre-coup de la reprise économique mondiale. Les demandes de matériaux sont massives depuis des mois et ça fait exploser les prix. Du bois, du plastique, des composants électroniques. Bref, tout ce qui fait un jouet. Et puis, facteur aggravant, pour ceux qui viennent d'Asie notamment, le coût des transports. La location d'un conteneur pour rejoindre l'Europe a été multiplié par 10 en un an. Résultat, le hamburger en plastique des pages Dinett de Jouet Club passe de 10 à 15 euros. Le coffret Monsieur Patate de la Grande Récré passe de 30 à 36 euros. Et le quad Pickwick Toys passe de 130 à 150 euros. Dans les catalogues, 7 jouets sur 10 affichent un prix en hausse. À noter tout de même parmi ceux qui n'augmentent pas, cocorico, les jouets français, loin de ces problématiques de coûts de transport.
Pierre, vous restez avec nous. On est avec Philippe Guédon, qui est directeur général de King Jouet. Bonjour monsieur, merci d'être en direct sur RTL.
Bonjour Mandy Lego.
On a cité quelques exemples d'autres enseignes. Chez vous, on a relevé notamment, je donne un exemple, le panda géant. L'an dernier, il était à une peluche, hein, parce que Pascal Praud me regarde d'un air...
C'est pas un vrai panda.
Une peluche, 1m30. L'an dernier, il était à 49,90€. Cette année, on est à 69,99€. Ça aussi, c'est le transport ?
Ah ben, c'est un bon exemple d'un produit volumineux à un prix... relativement faible, en tout cas par rapport à la masse du produit et sur lequel l'impact transport est beaucoup plus élevé, en effet.
Vous pouvez rien faire pour régler ça ?
Alors, on en absorbe une partie dans nos marges. Si je peux revenir sur le travail qui a été fait par Stéphane Bulot, je ne remets pas en cause
l'analyse
qui a été fait et qui est détaillé. Là, il y a notre panéliste NPD qui a donné au mois de septembre une analyse sur un top 150, toutes enseignes confondues. La moyenne était à plus 3%. Mmh. Donc plus 3%, c'est déjà conséquent. Mmh. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait les années précédentes. Mais ça reste quand même quelque chose de maîtrisé dans lequel les enseignes prennent une partie dans leur marge.
Mais je n'ai pas compris l'affaire du panda. Votre panda, il arrive d'où pour qu'il y ait 20 euros de transport en plus ? Et il arrive comment ?
D'une région qui s'appelle le sud-est asiatique et avec un moyen de transport qui est celui du conteneur. Donc le jouet, c'est 2/3 hein, qui sont fabriqués en Asie, malheureusement.
Donc ça arrive par bateau, c'est ça ?
Par bateau, oui, les conteneurs, avec une hausse des prix des conteneurs qui sont juste faramineuses, puisque le prix moyen d'un conteneur était l'année dernière, sur la période, autour de 2500 euros pour un conteneur. Cette année, c'est plus de 15 000 euros pour un conteneur.
Et si le panda était fabriqué en France, par exemple, il coûterait combien ?
Alors, allez, c'est une estimation, hein, j'ai pas ma règle de calcul sous les yeux, mais plus du double, plus de 100 euros.
Certains. Donc ça vaut quand même encore le coup de le faire venir, même si le prix du transport augmente.
Ben, je comprends encore une fois les consommateurs, vos auditeurs, qui peuvent être surpris, voire choqués par des hausses dans ces proportions-là. Mais si le produit était fabriqué en France, je pense, je suis assez certain de ce que je vous dis, que le prix sera encore bien plus élevé.
Philippe Guédon, vous restez avec nous. Pierre, on dit souvent que pour ces courses de Noël, en tout cas pour les achats du Père Noël, il faut les faire un peu en avance. Est-ce que c'est vrai encore cette année ?
Oui, parce que les prix affichés dans la plupart des catalogues ne sont valables que jusqu'à la fin novembre. C'est le cas chez King Jouet. Même chose pour les promos. J'ai envie de vous dire, pas de cadeaux pour les consommateurs les quelques semaines qui précèdent Noël.
Vous nous confirmez, Philippe Guédon, vaut mieux faire sa liste maintenant
Je pense que les parents ou les petites mains qui vont préparer pour le Père Noël doivent s'y prendre tôt. Maintenant, il faut d'abord que l'enfant ait pu voir ce qu'il souhaitait pour Noël. Donc les catalogues sont sortis. On peut imaginer que les premières listes vont bientôt être faites. Et en effet, je déconseille, on va le faire à l'envers, je déconseille aux parents de s'y prendre quelques jours avant Noël. Ceux-là, les tardifs cette année seront un peu la double peine d'avoir à la fois des ruptures sur un certain nombre de produits et puis des risques de prix qui vont encore continuer à grimper. Donc,
mais avant décembre, donc, c'est ça ?
Alors, le mois de novembre me paraît la bonne fête de tir. Je ne sais pas si le terme est bon, dans le cas présent. Mais pour en effet s'occuper des achats de Noël pour nos chers tout le monde.
Merci, monsieur Lamand, même si je suis très surpris. Monsieur Guédon, pardonnez-moi, même si je suis très surpris, parce que je ne sais de quoi vous nous parlez. Je pensais que c'était le Père Noël qui...
Mais bien sûr que c'est le Père Noël, mais il faut faire sa liste. Et le Père Noël, il l'achète et il fabrique. Enfin, vous croyez quoi ? Les enfants sont en vacances, Pascal.
12h58.
Ils nous écoutent.
Pierre Herbulot, merci.
Merci.
Et vraiment, à tout de suite pour les auditeurs qui vont pouvoir réagir sur tous ces sujets. Et puis on aura le temps qu'il fait parce que c'est l'automne. À tout de suite.
RTL Midi.
RTL. 13h02.
Les auditeurs.